Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun de nos auditeurs sur Bible Espoir, vous qui écoutez en effet nos messages vidéo ou audio. J'aimerais que nous abordions un sujet particulier qui est un sujet qui véritablement touche la question de notre salut, salut en Jésus-Christ. Alors je vous propose que nous lisions dans le livre de la Genèse un premier texte au chapitre 2, c'est le tout début du livre des commencements. Je répète, Genèse chapitre 2. Et à travers quelques versets où il est dit ceci, au verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Un peu plus loin, au verset suivant, il nous est dit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden » du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Le verset 9, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Voilà pour notre première lecture, la seconde qui nous ramène ou qui nous emporte, on peut le dire ainsi, dans le Nouveau Testament et sous la plume de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier Adam, le premier homme » que l'on appelle Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre et il est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Nous avons en profil, deux guides, l'homme de l'Éden et l'homme de l'Évangile. Deux guides, deux directions, deux destinations, on pourrait dire deux destins. Deux arbres, et deux hommes qui représentent l'image emblématique de la vie et de la mort, les choses sont dites clairement, du bonheur et du malheur, du ciel et de l'enfer. Nous avons un avertissement solennel dans le livre de Deutéronome, dans l'Ancien Testament, au chapitre 30, où il est dit ceci, il est question du jardin d'Éden et de la sortie des Hébreux d'Égypte. Il est question d'abord de l'arbre de la vie, qui est l'image de la qualité, agréable à voir, nous dit le texte, et bon à manger, synonyme de liberté, de bénédiction, de prospérité, et naturellement, en finale, puisque c'est là le destin, l'éternité. L'éternité dans la pensée de Dieu, naturellement. Il y a naturellement l'autre arbre qui est mystérieux, celui de la connaissance qui véritablement éclaire l'homme, créature de Dieu avec une conscience, le bien, le mal. Et il nous est dit que cet arbre mystérieux porte un fruit qui est défendu, que Dieu interdit et qui véritablement est un véritable danger de mort sans que l'homme le sache. Il y a une précision à faire au verset 16 que vous pouvez relire. Précision nécessaire pour la compréhension de cet Adam de l'Éden. Il y a naturellement, représente l'enfance de l'humanité qui cache une réalité invisible et spirituelle, un monde inconnu porteur d'un virus, un poison à haute teneur de contamination mortelle, le mal que la Bible appelle le péché. Et nous savons que l'apôtre Paul l'écrira, il le dira dans l'épître, dans sa lettre aux Romains, il dira « Le péché étant entré dans le monde, il a contaminé finalement toute l'humanité dans le temps et dans l'espace jusqu'à aujourd'hui. » Et nous savons en effet, nous avons cette conscience qu'il y a en effet une réalité en nous, une réalité autour de nous, c'est le péché qui véritablement est à l'origine de tout ce que nous connaissons de malheur, de détresse, d'angoisse, et que nous connaissons et qui nous ouvre véritablement cette angoisse mortelle, parce que c'est vrai, à cause de la chute d'Adam, nous nous dirigeons vers la mort, la mortalité. Adam était immature pour connaître le secret d'une réalité terrible. Il a été créé innocent et sans péché comme un enfant. Et nous le savons tous, c'est qu'on ne peut pas tout dire à un enfant. Il faut qu'il apprenne les choses au fur et à mesure de son développement. Et nous croyons que Dieu a agi avec sa créature humaine en le mettant en face progressive de cette réalité qui est le mal, qui est en effet la mort. Et voici le test de la tentation qui a été proposé à Adam. Et nous voyons qu'il y avait soit le choix d'obéir et croire à l'avertissement, ou tout simplement le contraire, enfreindre cet avertissement qui était une interdiction formelle. Or, le dilemme est de choisir. Pour l'homme, nous avons tous les jours, choisir entre ceci et cela, entre le bien, le mal, entre la vérité et puis également le mensonge. Donc, soit un arbre qui fait mourir, défendu, fruit empoisonné, ou alors, le contraire, choisir un arbre qui fait vivre éternellement, ingéré autant par le corps que dans le cœur des hommes, que dans l'âme des hommes et l'esprit des hommes. Nous voyons qu'il est bien clair, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous savons que c'est un arbre mystérieux celui-ci, et nous sommes confrontés avec une réalité invisible et spirituelle qui n'a pas été révélée immédiatement dans cette période d'immaturité d'Adam et Ève, mais qui se fait à travers la chute où les choses deviennent véritablement quelque chose que nous vivons encore aujourd'hui. Je voudrais faire une remarque, c'est que le monde de toujours est fasciné par l'esprit religieux, les hommes ou l'esprit superstitieux. Les hommes ayant perdu la conscience et la connaissance de Dieu, de sa volonté, de la vie promise, une vie de bonheur et d'épanouissement, les hommes ont transféré finalement cette perte en se donnant des religions, en se donnant des actes de piété, en essayant de plaire à Dieu pour essayer de colmater ou de rattraper la faute qui a été faite. Donc, l'homme reste fasciné de l'esprit par l'esprit religieux. Alors, il se construit toutes sortes de doctrines, toutes sortes de théologies, des cathédrales, des églises, etc., etc., pour essayer de, contrer ce mal, cette corruption. Et nous voyons que les 10 commandements sont là présents dans l'Ancien Testament, et il nous est dit tout simplement, et Dieu dira à l'homme, tu ne feras pas, tu ne te feras pas. Et nous voyons que les hommes continuaient à vivre de cette manière en s'imaginant que par leur acte, de piété, ils peuvent, de croyance, quelle que soit la nature de ces croyances, quelle que soit la forme ou l'expression de ces croyances, essayer de se racheter, auprès de Dieu. Et tout cela, c'est « tu ne feras pas », prend une sorte d'injonction du défendu et se concentre sur l'intérêt, l'interdit, et la faute et la culpabilité. Ce poison est létal, c'est-à-dire c'est la loi. La loi qui rend finalement la connaissance, qui donne la connaissance que ceci est bien, que ceci est mal. Ou alors, tout cela, c'est son contraire, c'est-à-dire la grâce. Et Dieu dira à ce moment-là à l'homme, « Tu pourras manger de l'arbre de la vérité qui conduit à la vie éternelle, ou alors tu as le choix de consommer le fruit de l'arbre du mensonge qui mène et qui maintient dans l'ignorance, dans l'obscurantisme et dans, une situation qui va devenir un atavisme perpétuel. Deux chemins et deux destinations. Livrets. » Selon la parabole de Jésus dans le Nouveau Testament, « L'ivraie qui pousse et qui croit, ainsi la liste des choses interdites passe en priorité avant celle des choses dont j'ai la liberté de faire. » Et ça, naturellement, je reste toujours en pleine capacité de choisir, liberté de faire. Et le résultat, c'est soit l'assurance du bonheur ou son contraire, un malheur imposé, un malheur dévastateur qui l'a entache, qui l'a pourri, les sociétés, les nations, les peuples et les hommes individuellement. Apprenons que la vie chrétienne se mesure non pas aux interdictions de faire, interdit de faire, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre de la Genèse, régie par la loi, mais nous voyons que la vie chrétienne est avant tout, ce positionnement, ce désir de la liberté à travers la foi, je crois Dieu ou je ne le crois pas, je vis pour Dieu ou je ne le vis pas, dans la grâce. Et nous savons que toujours l'apôtre Paul, qui a écrit beaucoup de choses sur le salut, dira « c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi ». Naturellement, à travers son sacrifice à la croix. Alors, il incitera ses lecteurs, il dira « c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi ». Ne revenez pas à ces traditions, à ces religions, à ces dogmes qui, là, vous ont captivé pendant, votre vie, et de génération et en génération se sont perpétués. Et nous voyons qu'il y a naturellement deux guides que nous allons découvrir maintenant, soit Adam ou soit Jésus. Adam qui a été vaincu, qui est tombé dans la tentation et qui a naturellement, est plongé dans le péché. Et puis il y a naturellement Jésus qui nous donne, un autre destin. Donc il y a deux guides et deux destins, soit on est perdu ou soit on est sauvé. À cela correspondent deux personnages caractéristiques, soit deux guides. Et c'est là où nous revenons justement sur Corinthiens, chapitre 15, verset 45, et je le relis pour le commenter. C'est pourquoi il est écrit. C'est pourquoi il est écrit, c'est ce que nous venons de dire, pour présenter en introduction, la condition de l'humanité perdue, et pourtant qui a eu le choix, et qui a choisi, le contraire de ce que Dieu voulait, hors la volonté de Dieu. Il nous est dit le premier homme, alors il est nommé Adam, qui est né de la poussière, Adama en hébreu, devint une âme vivante. Il nous est dit que Dieu souffla, un souffle de vie. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, est devenu un esprit vivant. Il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Et nous voyons que Adam a reçu une âme vivante, une personnalité, une identité, c'est-à-dire c'est son âme, c'est son cœur. Et puis le deuxième est devenu un esprit vivifiant à travers Jésus, qui est venu parmi les hommes pour les sauver, à travers sa crucifixion, parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions être rendus vivants, et à travers sa résurrection pour nous montrer que la mort n'arrête pas ce processus de vie et tout simplement d'esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, Et nous l'avons vu, ça commençait dans le Jardin d'Éden et ça finit par l'Évangile, où là nous voyons Jésus eh bien, accomplir la volonté de Dieu parfaitement et totalement. Alors, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite, et nous avons là tout le déroulé, en quelque sorte, de l'histoire de la Bible qui commence par cet Ancien Testament, où là va figurer, après la chute, la loi de Dieu, qui punit, qui sanctionne, qui véritablement, eh bien, la réclame une obéissance absolue. Et puis, la deuxième phase, il nous est bien rappelé que Jésus est venu comme, eh bien, là, vivant dans un corps d'homme, mais avec et pour répandre son esprit, l'esprit de Dieu, sur les hommes qui l'acceptent. Le premier homme est tiré de la terre, on l'a vu, il est terrestre. Le second homme, parce que il va y avoir véritablement, eh bien là, une nouvelle naissance, nous en parlerons. Le second homme est du ciel. Jésus est mort sur la terre. Il est venu accomplir la rédemption de l'humanité, pour ceux qui croient naturellement. Le second homme est du ciel, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et nous sommes, nous, dans cette phase-là, hein, venant au monde en tant que, eh bien là, enfant, dans notre naissance naturelle, et puis grandissant, arrivant à un âge qui est celui de la vie des hommes sur la terre. Tels sont aussi les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et Jésus est venu nous donner véritablement un message extraordinaire quand il nous parle du ciel. Et il nous parle de ce que l'on appelle des conversions, c'est-à-dire des demi-tours, des changements, une adhésion de cœur et d'amour à la personne de Jésus. Et il est dit, tels sont les célestes. Nous sommes sur ce chemin. Nous sommes derrière un guide. Nous sommes, eh bien là, proposés à un nouveau destin. Ça se passe sur la terre. Nous, nous sommes encore des êtres terrestres, mais Dieu, à travers une nouvelle naissance, à travers une, comment pourrait-on dire, une vie, une nouvelle création en nous, eh bien, là, nous voyons, nous marchons vers le ciel. Les hommes marchent vers la terre et ils y seront enterrés, poussière, tu te reviendras poussière. Mais nous voyons que, eh bien, la mort ne nous arrête pas, n'arrête pas le croyant, quelque part. Au moment où il vit sur cette terre, il est un corps d'homme, il a un corps d'homme. Mais ensuite, eh bien, il prépare à l'intérieur de lui-même comme une régénération, comme une transformation. Tout cela parce qu'il a choisi son guide. Et nous savons que là, eh bien, ce que Jésus a été vainqueur sur la croix en mourant pour chacun d'entre nous et en ressuscitant, eh bien, il nous montre qu'il y a aussi la réalité d'une résurrection. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et c'est bien la raison de notre foi et de nos convictions. Et de même, nous qui avons porté l'image du terrestre, dit l'apôtre, nous avons porté l'image du terrestre avec un corps, avec toutes les vicissitudes du corps, nous porterons, parce que c'est à venir, aussi l'image du céleste. Lorsque nous fermerons pour toujours les yeux, et nous voyons que, eh bien, c'est le lot de tous les hommes, il n'y a aucune exception, eh bien, à ce moment-là, nous les ouvrirons sur ces paroles que nous avons dans la Bible et qui nous donnent une espérance céleste et éternelle. Alors, deux arbres, deux chemins, deux guides, deux destins, nous sommes perdus si nous refusons de croire, naturellement, comme dans le Jardin d'Éden. À cela correspondent deux personnelles caractéristiques. Eh bien, nous avons lu le texte que nous rapporte l'apôtre Paul. Il y a ces mots qui sont véritablement, eh bien, caractérisés. Il y a pour l'homme qui ne se repent pas, l'homme qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas à ses promesses, qui ne croit pas à une autre vie, il y a le vieil homme. Et le mot, l'adjectif vieux, veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a là, eh bien, en quelque sorte, une nature qui se dégrade physiquement, moralement également et spirituellement. Il n'y a pas de vie supplémentaire. Et il s'agit d'Adam, qui est le perdant dans cette affaire, qui est entaché et qui demeure entaché tant qu'il est incrédule, entaché de défauts les plus défavorables. Et il s'oppose finalement, eh bien là, à son bonheur. Et puis il y a l'homme nouveau, je parlais du vieil homme, mais l'homme nouveau, créé en Jésus-Christ, aux qualités parfaites, où il est question de lumière. Jésus le dira, vous êtes la lumière du monde. Véritablement des qualités de sainteté. C'est pas nous qui faisons notre sainteté, mais c'est Dieu qui, à travers la vie, à travers les épreuves, à travers toutes sortes de choses, nous peaufine en quelque sorte pour que nous puissions avoir un caractère céleste. Il y a la vérité également, autre qualité parfaite, hein, où là il n'y aura plus d'ombre, il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de contrefaçon. Et puis tout cela, c'est la perfection. Alors, Jésus-Christ, autant le vieil homme est le perdant, autant Jésus-Christ est le gagnant. Mais maintenant, naturellement, il faut répondre à une question. Que et qui choisir? Que faire dans cette affaire? Nous savons que Dieu nous a donné, son esprit pour connaître la vérité. Une conscience pour choisir. Qu'est-ce que nous allons faire? Qui et que choisir? Et ça, c'est une question personnelle. En Adam qui a chuté et qui a tout perdu, en Jésus qui est vainqueur, qui a tout gagné. Et nous avons, en effet, ces paroles qui sont... ces paroles qui sont vraiment très belles. Dieu dira dans l'Ancien Testament, et il préparait déjà la bonne nouvelle de ce qui est écrit dans l'Évangile, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, que cela et de cela dépendent la prolongation de ces jours. » Si nous voulons voir le bonheur sur la terre, mettons-nous du côté de Jésus, mettons-nous du côté de Dieu, et croyons que lorsqu'il nous donne des avertissements, d'une manière ou d'une autre, il en connaît la profondeur, il en connaît le résultat, choisissons naturellement le meilleur, et refusons le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est un arbre d'angoisse, un arbre de culpabilité et un arbre de condamnation. Et nous avons également quelques paroles à citer dans Jean chapitre 3, verset 17. Et il nous est dit, pour nous rassurer, « Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde. » Jésus n'est pas venu pour condamner. Il n'est pas venu pour juger. « Mais que le monde soit sauvé par lui. » Celui qui croit en lui, qui croit en Jésus, n'est pas jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il ne croit pas que Dieu a donné, que Dieu a envoyé pour notre salut, notre pardon, qu'il a envoyé Jésus. Et puis dans Romains chapitre 6, verset 23, l'apôtre précisera, il dira « mais maintenant », c'est-à-dire l'état où je suis dans notre présent, dans ma vie présente, « vous avez pour fruit la sainteté ». C'est-à-dire cette mise à part, cette reconnaissance de Dieu parce que vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes converti à Jésus-Christ et non pas à une religion, à une église, quelle qu'elle soit, soit-elle bonne ou ce que l'on veut. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, nous avons peut-être de quoi choisir maintenant à travers ces dernières paroles, et les raisons du salut seront les suivantes. Jésus s'est offert en sacrifice sur l'arbre de la malédiction, qui est le symbole de la condamnation en forme de croix. Jésus n'a pas été, en effet condamné pour ses propres péchés, mais il a été condamné, non pas pour quelques personnes, une élite de croyants, non, il a été condamné tout simplement pour tous ceux de toute l'humanité, et il a triomphé de la mort parce que véritablement, les choix de l'homme, le vieil homme, a fait un héritage maudit en Éden, et il obtient pour celui qui croit, c'est-à-dire les croyants d'aujourd'hui, les chrétiens, non pas de nom, mais les chrétiens qui sont véritablement passés par une expérience de rencontre avec Dieu, il obtient pour nous la bénédiction et la vie éternelle. Et en conclusion, je pourrais simplement citer cette parole, Jésus est venu pour que le monde sache. Alors nous avons la parole, nous avons l'Écriture sainte, nous avons l'Ancien Testament qui nous parle de cette loi punissante, mais il nous est donné aussi dans le Nouveau Testament le message de la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui, à la rencontre pour les Juifs du Messie, à la rencontre pour les hommes de notre temps, que tout le monde sache que Jésus-Christ est Sauveur et il est Seigneur. Et voilà, nous pouvons résumer tout simplement ces deux destins qui sont livrés à la conscience, au choix, à véritablement à la réflexion de tous les hommes lorsqu'ils sont confrontés avec le message biblique, à la fois l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ainsi de pouvoir choisir entre le bien et le mal, et non pas un choix futile, un choix volatile qui ne demeure pas, mais un choix déterminé, c'est-à-dire prendre Jésus pour notre guide, celui qui nous éclaire, celui qui marche devant nous, celui qui a payé le prix de notre rachat, parce que on ne peut pas racheter son âme, tout simplement c'est quelqu'un qui l'a fait à notre place et qui l'a fait parfaitement. Alors soit nous marchons avec le monde dans l'incrédulité, dans le refus de croire, dans le refus de considérer ce que Dieu nous a dit, c'est quelque chose que nous réfutons, que nous ne voulons pas accepter, ou alors à ce moment-là, nous écoutons les paroles de Jésus, qui nous dit tout simplement, comme nous l'avons lu maintenant, « Vous avez le fruit, pour fruit la sainteté, la pureté, l'éternité, mais le salaire du péché, c'est la mort, et je crois qu'il n'y a aucun homme qui veut mourir, mais une chose qui est certaine, c'est que nous voulons mourir, dans la foi en Jésus-Christ, parce que c'est le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, dans la personne de Jésus. » Voilà, nous avons un résumé tout simple, de ce que Dieu veut pour les hommes. Et nous voyons que ça pourrait être tout simplement conclu par cette parole qui est le centre même de tout le message de Jésus, de l'Évangile, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas haï le monde, même avec son péché, même avec ses fautes, même avec ses détournements, son idolâtrie, son occultisme, toutes sortes de choses abominables. Non, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Oui, c'est un don, c'est gratuit, c'est une grâce. C'est pas quelque chose que nous achetons, certainement pas. Il a donné son Fils unique, il n'y en a qu'un sauveur. Il n'y a pas 36 dieux, il n'y a pas 36 sauveurs, il n'y a pas là quelques religions qui auraient le monopole de la vérité, non. Il a donné son Fils unique afin que quiconque, le quiconque est quelque chose d'une grande importance, parce que l'on soit chinois, russe, français ou tout ce que vous voudrez, que nous ayons la peau noire ou la peau blanche, que nous appartenions à telle ou telle culture religieuse d'une manière ou d'une autre, à quelque religion particulière, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'animisme, ou que ce soit le christianisme, les orthodoxes, les juifs, etc., etc. Il a donné afin que quiconque croit en Jésus, voilà, c'est véritablement la marque, croit en Jésus, je veux croire en Jésus, je donne ma vie à Jésus, je sais et je suis convaincu dans ma conscience que l'esprit nouveau que Dieu m'a donné, me conduit et me dirige à reconnaître en Jésus celui que Dieu a donné, parce qu'il nous a aimés et il a donné ce qu'il y avait de plus grand et de plus beau, l'amour, alors à ce moment-là, je suis sauvé. Je ne serai pas sauvé, mais je suis à l'instant sauvé. Et je peux m'approcher maintenant de Dieu, et je peux le dire à tous les hommes, afin que quiconque croit sache. Alors, nous avons une mission à remplir, dire et donner le témoignage de notre expérience avec Dieu, et encourager des hommes, des femmes, quels que soient en effet les péchés, les fautes qu'il a pu commettre, Dieu est celui qui pardonne et que le monde le sache. Merci à tous. Nous vous invitons à nous retrouver soit sur des vidéos flash ou alors des vidéos classiques et puis pour des audios de toutes sortes qui touchent tous les sujets dont nous avons besoin de connaître et d'apprendre. Alors merci à tous. Et à bientôt. Merci.